Nous sommes en famille ce soir. Bien dispersés, mais en famille quand même. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura les jours difficiles. Et on peut dire qu'on y est maintenant. Ce sont les jours vraiment difficiles. Et ce qui s'est passé était très, très, très dangereux. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ce qui a été fait était en réalité une déclaration de guerre. Si c'était l'Espagne qui avait fait ça contre la France et signé, c'est nous les Espagnols qui ont tué, il y aura une guerre entre la France et l'Espagne, tout simplement. Mais parce que c'était dans le pays même, le gouvernement fait tout son possible pour calmer le jeu, ce qui est bon. Ils ont employé encore des milliers de policiers pour essayer de garder le calme. Mais c'est très, très équivoque, on ne sait pas ce qui va se passer. Je sais une chose, c'est que si il y a un autre attentat, surtout si c'est contre l'Église catholique, l'extrême droite va réagir, vous pouvez y compter. Hein? Et là, ça entraîne une guerre civile. C'est ça que tout le monde redoute le plus. Et c'est pour cela qu'il parle toujours de l'unité, de calme et tout cela, parce que ça serait horrible. Dans la première guerre, il y avait des tranchées. Et l'ennemi était là, et ils étaient habillés d'une certaine façon. Nous étions de l'autre côté, habillés d'une certaine façon. On savait qui était l'ennemi, on savait où était l'ennemi, et tout était simple dans ce sens-là. Une guerre civile, on ne sait pas qui est l'ennemi, où est l'ennemi, et quand l'ennemi va attaquer. C'est-à-dire que les rues, les magasins, les églises, les cinémas seront tous des champs de bataille. On peut attaquer à n'importe quel moment. Nous devons prier beaucoup que le gouvernement arrive vraiment à calmer le jeu, comme ils font jusqu'ici. On parle constamment de pardon, de paix, de tout cela. Espérons que ça va continuer et prions pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas où on va aller maintenant. Je vais ce soir parler d'un passage biblique qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 10. Je vais demander à Alexandre de venir ici nous lire les versets.
C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé. Et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. C'est jusqu'à combien ?
Jusqu'au verset 10.
D'accord. Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir, En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelques actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de contempler ce qui manque à votre foi.
Le verset 10, c'est le texte de ce soir. Complétez ce qui vous manque à votre foi. Paul avait des bonnes paroles pour cette église. Il savait, il traversait des persécutions terribles. Ils avaient gardé la foi. Vous avez remarqué combien de fois le mot « la foi » est arrivé dans le passage? Eh bien, la foi voulait dire la vie chrétienne. Vous pouvez toujours mettre, chaque fois que vous voyez la foi, vous mettez la vie chrétienne. C'était leur façon à cette époque-là de parler d'un chrétien. Il a la foi, c'est-à-dire il est sauvé. Alors, le texte de ce soir, c'est ce qui manque à votre foi. Paul voulait aller là, compléter encore ce qui manquait. Malgré le fait qu'ils avaient gardé la doctrine, gardé la foi, gardé cette persévérance en face de toutes les persécutions, on manque toujours quelque chose. Ce soir, je ne veux pas parler de manque de foi dans le cœur de chacun, parce que chacun a un problème différent que l'autre. L'un manque ceci, patience, un autre manque le zèle, etc. Mais je peux parler de ce qui manque dans notre Église. Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui doit être complété maintenant? Je peux noter peut-être quatre choses ce soir. La première, c'est que le danger de devenir un club. Quand une église se forme, il y a beaucoup de chaises vides et tout le monde veut gagner encore d'autres personnes. Quand quelqu'un entre, oh là là, tout le monde est là pour l'accueillir et lui parler gentiment, les encourager de revenir. Mais au fur et à mesure qu'on continue, on s'habitue avec les mêmes personnes et on aime être dans leur présence, on parle avec eux. Un nouveau arrive, oh, peut-être il y a deux ou trois à la porte qui les saluent, tout ça, mais le restant, ils parlent entre eux et tout ceci. Et une église devient rapidement un club chrétien. Alors il faut vraiment veiller à cela parce que notre Église est à la limite maintenant et c'est très facile tout simplement devenir un club chrétien plutôt qu'une Église vibrante pour Christ. Il faut que vous fassiez un effort pour saluer les nouveaux qui viennent. Quittez les gens avec lesquels vous fréquentez tout le temps et allez à la rencontre de ces nouveaux. Faites-leur sentir, et puis dites aussi à d'autres qui ne sont pas là ce soir, d'autres membres. Je me rappelle, des églises deviennent tous des clubs à la longue. Je pense à la rue de Sèvres, par exemple, l'église là-bas. Vous savez que cette église est là depuis 70 ans, 65 à peu près, 65 ans. Alors, je crois que les famille était là, les enfants ont grandi, à tel point que je me demande si des enfants savent qui est leur parent, leur oncle et leur tante, plutôt qu'un autre membre de l'Église. Quand on est là depuis 65 ans, on confond le tout, tout est mélangé. Voilà quelque chose à travailler, à penser à cela. Deuxième chose, c'est le témoignage. C'est-à-dire que, comme j'ai parlé dimanche, j'ai parlé de témoignage de la vie, le témoignage de la bouche. Eh bien, il y a plusieurs façons de témoigner par la bouche. C'est que on peut aller de maison à maison. Les témoins de Jéhovah le font. Les Mormons le font. Moi, je n'étais jamais à l'aise faisant de porte à porte. Mais il y a des avantages quand même. Si on a le courage de le faire, l'avantage, c'est que si quelqu'un est intéressé, on sait où il habite. On peut revenir. Tandis que dans la rue, même si la personne est intéressée, on n'a plus de contact avec lui. C'est rare que la personne dise « Mais téléphonez-moi, voilà mon numéro de téléphone. » Alors, c'est bon, maison à maison, mais je suis toujours là en train de dire « Il va claquer la porte à mon visage. » Alors là, je pense à ça plutôt qu'autre chose. Et puis, il y a le témoignage de la semaine. Il y a un groupe d'hommes et quelquefois de femmes, mais normalement ce sont des hommes. Deux hommes partent ensemble pour témoigner à quelqu'un qui était déjà venu. On a l'adresse, on va là-bas, on parle. Je suis allé souvent comme cela avec quelqu'un d'autre. C'est bon ça, c'est merveilleux. Mais on est limité avec les gens qu'on connaît déjà. Le troisième, la meilleure, c'est d'être toujours prêt à rendre témoignage à qui vous demande. Quand vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes libre de le faire, voilà une bonne recette. Je vais vous donner une bonne recette. Est-ce que je t'ai jamais raconté ce qui m'est arrivé un jour? Alors, ils sont intrigués de savoir, non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et alors là, tu donnes ton témoignage. C'est surtout, il faut donner le témoignage, parce que dans un témoignage, on peut ajouter beaucoup de choses. Par exemple, avant de connaître le Seigneur, je croyais que j'étais déjà bien. Je suis allé à l'église, j'ai fait ceci, cela. Et je pensais que tout allait bien, que j'irais au ciel. Ce n'est que par la suite que j'ai compris que non, j'étais un pécheur, que je devais me repentir. Alors là, vous avez tout le message sans le dire à lui, tu es pécheur. Tu n'as qu'à le dire, voilà ce qui m'est arrivé. Et la personne va comprendre. Donnez toujours votre témoignage, c'est ça qui est bon. Si c'est donné du cœur, ça touche les cœurs. Bon, je crois que ça, c'est quelque chose que tout le monde dans l'Église pourrait pratiquer. Toujours prêt. Le tout, c'est de demander au Seigneur, avant de partir le matin, « Seigneur, aide-moi à trouver quelqu'un. Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. » Et alors là, que ça soit dans le métro, que ça soit dans la rue, que ça soit... Ayez toujours prêt à dire quelques mots qui intrigue la personne, et si c'est quelqu'un qui vend, si c'est un boulanger, ou si c'est, et vous revenez une deuxième fois, vous ajoutez juste un tout petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à ce que la personne dise, mais qui êtes-vous? Alors là, vous pouvez carrément raconter toute l'histoire. Alors ça, c'est une autre chose qu'on peut ajouter, qui pourrait manquer à l'Église, c'est contact constamment pour Christ, là où vous êtes. Maintenant, le troisième, c'est la prière spécifique. Nous avons dans notre église une réunion de prière, elle est bonne. Là, il y a une bonne assistance aussi, il y a pas mal de gens qui viennent. Alors là, en cercle, chacun prie pour ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Et on a sujet sur sujet. Vous serez étonné le nombre de sujets qu'on peut trouver dans un cercle comme cela. Et ça dure une heure, avec des sujets différents tout le temps. Et c'est bien, il faut continuer. Mais il y a quelque chose d'autre que l'Église ne connaît pas. Et c'est pour cela que j'en parle. C'est que c'est l'Église, c'est la réunion de prière pour un sujet particulier. On se réunit 3, 4, 5 et on ne prie que pour un sujet, pas 2 ni 3, un sujet et avec tout cœur. Je me rappelle que j'étais une fois en Amérique dans une réunion de missionnaires. Ils étaient assez nombreux, peut-être 150, 200 là. Et quelqu'un est venu en disant, la fille d'une telle personne a le scarlet fever en anglais. Je ne sais pas le mot en français. C'est une fièvre pour laquelle il n'y a pas de remède. On en meurt. C'est-à-dire que cette fièvre vous brûle jusqu'à la mort. Parce qu'on ne peut pas transpirer. C'est impossible de transpirer avec cette fièvre. Et sa petite fille avait la fièvre. Alors, on a tout arrêté. Hein. Celui qui était à la tête, il a dit, ben, maintenant on va s'arrêter. Nous allons prier pour cette fille, que Dieu la guérisse. Les parents étaient des missionnaires. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Des gens ont pleuré, ont prié pour elle, mais personne après l'autre, pour un sujet, croyez-le ou non, avant qu'on finisse de prier, le message est venu, la fille est guérie. Alors, on a annoncé ça au docteur. Il a dit, c'est pas possible. Ça se guérit pas. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est guérie? Mais parce qu'elle transpire, elle est trempe. Non, non, il a dit, c'est pas possible. Vous vous trompez vous-même. Et ils ont dit, mais allez, venez voir. Il a dit, je comprends, je vais venir tout de suite. Il a tout lâché, il est venu. Il entre dans la chambre. Mais la petite, elle était trempe de sueur. Il n'en revenait pas. Il était là, il a regardé. Il a dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Et il est parti. Elle était guérie. Ça s'appelle la prière spécifique. Comment on arrive à cette chose spécifique? Comme disait les Africains, dans une tribu que ma femme connaissait, ils se sont réunis parce qu'il n'y avait pas de pluie depuis des mois. Alors, tout était en train de brûler, ils n'auraient rien à manger. Alors, toute l'église se réunit pour prier pour la pluie. Ils ont prié, 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 uniquement pour la pluie. Quand ils ont fini la réunion de prière, ils sont sortis. Il pleuvait. Il pleuvait fort. Et tout le monde est rentré chez lui trempe, sauf Adam. Il avait porté quelque chose pour se couvrir. Il a dit, on a prié pour la pluie, moi je me suis préparé. Je vous dis, quand vous priez pour la prière, portez votre parapluie. Hein, car Dieu peut répondre. C'est ça qui est bien. Des prières spécifiques. Il faut d'abord avoir le fardeau. Plusieurs personnes ont le même fardeau, croyant que Dieu veut répondre à cette prière-là. On se met à prier, unis, totalement unis, car si 2 ou 3 s'entendent pour quelque chose, ils l'auront. Alors, avec cette prière unie, constamment sur un seul sujet, Dieu répond. Alors, c'est quelque chose qui manque. Quelque chose qui doit être ajouté. Pas supprimer ce qui existe, mais ajouter ce qui n'existe pas. Quelque part, peut-être même pas chaque semaine. Simplement quand il y a un fardeau terrible qui arrive sur le cœur de plusieurs et qui prie ensemble, unis dans la foi. Et puis, en dernier lieu, ce soir, je veux parler de la foi. Parce que quand on prie, spécifiquement ou autre, on doit prier avec la foi que Dieu va nous exaucer. Personnellement, j'ai davantage de foi maintenant que j'avais quand j'avais 25 ans, et j'ai plus de foi maintenant que lorsque j'avais 70 ans. C'est-à-dire que si on exerce la foi, elle grandit. C'est-à-dire qu'on croit des choses que normalement seraient impossibles. Et on voit le Seigneur répondre. Je me rappelle quand on était à Toulouse. Et je vais vous raconter cette histoire dans un instant. Mais avant de raconter cela, je vais vous dire que en parlant de cette foi qui augmente de plus en plus, j'ai parlé avec plusieurs dans l'Église et ils ont consulté le web, l'Internet, pour savoir ce qui existe à Paris comme un grand salle. Et avec le résultat que nous sommes persuadés maintenant, et je suis content de vous annoncer cela ce soir, je crois que nous pouvons avoir exactement ce que nous cherchons pour 40 ou 50 millions. C'est ma bonne nouvelle ce soir. Avec 40 ou 50 millions. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous dire ce que ça fait. Ça fait rire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre domaine. Jésus a dit, je m'étonne que vous avez si peu de foi. Il a dit ça pas une fois, ni deux, mais plusieurs fois. Il s'étonnait constamment le manque de foi. Vous savez, s'il était sur terre, il en ferait autant maintenant. Le manque de foi chez les chrétiens. C'est-à-dire que on croit que Dieu peut faire plus que nous. Nous voyons la chose là et nous croyons que Dieu peut faire jusque-là. Mais pas jusque-là quand même, mais quand même jusque-là, tout de même, plus que nous. Et c'est une chose, on limite Dieu. Le psalmiste a dit, ce qui me fait le chagrin de mon cœur constamment, c'est que le bras de l'Éternel n'est plus le même. Et je crois que nous aussi aujourd'hui, Seigneur, je suis triste parce que ton bras n'est plus le même. Tu faisais des choses merveilleuses dans le temps, mais je sais que tu es faible maintenant. Tu t'es fatigué avec tout ça. Tu n'as pas la même force. Oh Seigneur, si tu peux nous donner quand même un tout petit peu, fais un effort. J'ai une bonne nouvelle. Hein? Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas faibli. Vous savez ce qui a faibli? Notre foi. Nous ne croyons plus qu'il peut faire. Le psalmiste a dit, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Eh oui, il peut dresser une table. Pas une fois, mais pendant 40 ans. Il a dressé une table dans le désert. Est-ce qu'il peut faire couler de l'eau d'un rocher? Oui. Assez pour abreuver 1 million de gens plus le bétail. Et est-ce qu'il peut? Et est-ce qu'il peut? Mais bien sûr, il a fait toutes ces choses-là. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Il faut avoir une nouvelle conception de Dieu. C'est que Dieu est tout puissant. Il peut tout. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Et quand je dis 40 à 50 000, mais c'est rien pour Dieu. C'est comme si Dieu était limité. Dieu n'est pas limité. C'est nous qui sommes limités par notre manque de foi. On peut croire, si Dieu nous met quelque chose à cœur, c'est qu'il veut l'accomplir. C'est que nous devons demander et attendre de lui ce que nous avons demandé. C'est ça qui est merveilleux. Nous pouvons voir l'impossible même aujourd'hui. Mais il faut le croire, il faut attendre, il faut être là, tout prêt pour le recevoir. Voilà ce que je mets devant vous ce soir. Oh, il y a peut-être beaucoup d'autres choses que je peux dire là-dessus. Mais il faut une autre conception de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il va recréer les cieux et la terre de nouveau. Il n'a pas perdu sa force. Il peut tout faire. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on l'honore. Nous n'honorons pas le Seigneur avec des petites choses, des petites prières, de rien. On n'attend rien du tout. Et puis, il faut faire attention de croire que Dieu peut faire ça pour l'autre, mais pas pour moi. Ça, c'est très fort aussi. Je me rappelle quand j'étais à Toulouse et j'ai trouvé un local sur la place centrale de la Bible. Il y a deux places centrales, une place où il y a la mairie, mais l'autre où il y a les cinémas, les cafés, et c'était là. Mais au début, c'était pour louer. Et je me suis dit, bon, ça va, on peut le louer. Après, il est venu, il m'a dit, non, c'est à vendre. Il veut vendre. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'il demande? Oh, des milliers, des milliers, des milliers. Oui, bon, merci. Alors, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, rien n'est impossible. Et nous avons prié. Le temps est passé, je n'avais pas d'argent. Il a renouvelé le temps qu'il nous accorde pour trouver l'argent. Finalement, il a compris que je n'avais rien. Il pensait parce que j'étais un Américain que je cachais mon jeu, que j'avais beaucoup à la banque. Alors, finalement, il a compris que je n'avais rien. Alors, il a dit, écoutez, hein, j'étais gentil avec vous, mais cette fois-ci, c'est fini. Je vous donne ceci. Jusque vendredi à midi, j'ai un autre acheteur. Il est tout prêt, il a montré son argent. À midi, vendredi, si vous n'avez pas l'argent, c'est terminé. Hein? J'ai dit, d'accord. Je vais vous dire ce soir. À 11h30, j'avais le chèque de la totalité de ce qu'il demandait. Et je suis entré dans le bureau, j'ai placé le chèque. Il a dit, c'est bien. Alors là, nous avons acheté ce local et Dieu a béni et Dieu a sauvé des âmes. Dieu peut tout faire, mes chers amis. Dieu est au-dessus de nos problèmes. Et quand vous dites, oh, mon problème est grand, il faut poser la question, plus grand que d'ouvrir la mer Rouge pour laisser passer. Est-ce que c'est plus grand que ça? Est-ce que c'est plus grand que de faire tomber les murs de Jéricho? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez dire, non, c'est encore plus petit. Alors s'il peut faire ça, il peut faire ce que vous voulez faire. Marchons avec Dieu. Mettons notre confiance en lui. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'honore en demandant de grandes choses, pas des petites. Des grandes choses. Seigneur, manifeste ta puissance à cette génération perverse et perdue. Amen.